Les résultats largement au-delà des attentes. Hein. Il faut juste regarder la réaction d'après-bourse, plus 14%. Il faut dire que le groupe a quand même dégagé 28 milliards de profits nets en l'espace de 3 mois. C'est plus 20% par rapport aux attentes des analystes. Donc une nouvelle fois, eh bien, les analystes ont sous-estimé la puissance de Micron et de l'ensemble de cette chaîne des semi-conducteurs. Bonjour Vincent Juvins, responsable de la stratégie d'investissement d'ING. Bon, c'est vrai que le marché a visiblement sous-estimé Micron, alors qu'en bourse, on est quand même sur un parcours spectaculaire. Hein. Ça vaut plus de 1000 milliards en bourse. Ça a été multiplié par 3 depuis le début de l'année, fois 9 en l'espace d'un an. Et visiblement, il y avait encore de la place pour des bonnes surprises.
Oui, certainement, et vous l'avez souligné, hein, finalement des résultats largement au-dessus des attentes, plus de 20%, à la fois dans l'ex-post où on a de très très belles réalisations, mais également dans la guidance. Hein, on voit que finalement le marché sous-estime systématiquement finalement les tensions qu'il peut y avoir dans le secteur des semi-conducteurs, le fait que la demande dépasse structurellement l'offre, et cette année, mais également pour les 2-3 prochaines années à venir, ce qui donne une relativement bonne lisibilité sur les perspectives pour le secteur. Des chiffres qui viennent rassurer à un moment où c'est vrai que les investisseurs commençaient un petit peu à douter de la soutenabilité du mouvement de hausse du secteur de la tech et du secteur, en tout cas des semi-conducteurs en particulier. On avait vu ce mouvement de défiance en début de semaine où on avait vu notamment une grosse volatilité sur des indices asiatiques comme le Kospi en Corée. Kospi qui rebondit fortement ce matin comme la plupart des valeurs de la tech, et c'est quelque chose qu'on verra évidemment en Europe ce matin et au cours de la journée, et plus tard aux États-Unis où les futurs pour le Nasdaq sont également bien orientés.
C'est vrai que l'Asie, avec une belle séance ce matin, plus de 5% de hausse pour le Kospi, plus 4% pour le Nikkei. Et puis, bah, comme je le disais en préambule, nous à Paris, on est stable. Bon, l'Eurostox prend 0,3%. Voilà, on n'a pas besoin de faire de dessin. Malheureusement, on n'a pas de valeur technologique. Et donc, on est encore et toujours pénalisé, Vincent.
Oui, alors c'est évidemment c'est un coup d'opportunité pour l'Europe qui est trop exposée évidemment au secteur technologique. Soulignons toutefois évidemment le fait qu'aujourd'hui on peut s'attendre à ce que le marché l'AEX aux Pays-Bas évidemment fonctionne bien grâce à SML notamment, mais il est absolument indispensable. Je pense que les dirigeants européens sont conscients, eh bien de s'assurer de la création d'un écosystème intelligence artificielle européen pour à la fois profiter évidemment de cette dynamique, conscient aussi. Et on l'a vu dans ces dernières semaines que, eh bien, on peut parfois être privé de l'accès aux technologies les plus innovantes lorsque des pays comme les États-Unis, en l'occurrence, bloquent l'accès à certains opérateurs comme Anthropic. Il est absolument urgent, à la fois d'un point de vue boursier, mais encore plus d'un point de vue économique et d'un point de vue stratégique, que l'Europe se dote d'outils, en tout cas équivalents à ce qui peut se faire aux États-Unis, mais également en Asie. Et je parle évidemment ici sur la thématique intelligence artificielle, évidemment sur les semi-conducteurs. Là, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup de retard. On avait envisagé évidemment de construire des usines, notamment en Allemagne, en la matière. On n'est pas parvenu jusqu'ici à attirer suffisamment d'investisseurs pour justement créer ces usines de fabrication de semi-conducteurs sur notre territoire.
Autre nouvelle favorable dans ce segment, c'est Qualcomm, hein, hier soir, qui a relevé bien au-delà des attentes, là aussi, son objectif de chiffre d'affaires pour 2029 à 40 milliards de dollars. C'est le double de son objectif précédent. Bon, ça, c'est le fait du jour. Qualcomm, Micron, et puis aussi les cours du pétrole, Vincent Juvins, qui cette nuit, eh bien, sont revenus, alors ça n'a pas duré longtemps, hein, quelques centimes en dessous de leur niveau d'avant-guerre. On est à 72$ pour le Brent, 70$ pour le WTI. Bon, c'est une bonne nouvelle quand même. Là aussi, ça défie un petit peu les pronostics et les prévisions que le marché pouvait se faire il y a quelques semaines de cela encore.
Certainement, alors à la faveur évidemment en tout cas d'une plus grande fluidité dans le détroit d'Ormuz, c'est vrai qu'on voit ces prix pétroliers refluer. Prudence tout de même, hein. C'est vrai qu'on voit ces discussions entre Iran et États-Unis quand même s'éterniser, même si de timides accords semblent gagner sur certains aspects du dossier. Il me semble que les positions sont quand même fort divergentes sur certains aspects essentiels, en tout cas d'un accord de paix définitif. Je pense notamment aux inspections sur les sites nucléaires iraniens où il semble qu'il y ait objectivement ici, jusqu'ici, pas d'accord. Donc on est encore très loin d'un accord final, étant qu'il n'y a pas d'accord sur tout, il y a d'accord sur rien. Donc gardons-nous de tout optimisme ou d'euphorie en la matière, sachant aussi que beaucoup d'infrastructures dans la région ont été détruites. Donc Dans nos perspectives, on est toujours dans cette idée, et les Brent Futures l'indiquent également, qu'on devrait avoir a priori les prix pétroliers plutôt aux alentours des 70, voire légèrement au-dessus pour le reste de l'année. À la faveur d'un accord définitif, on pourrait imaginer alors des prix pétroliers qui retombent plus franchement à partir de 2027. Mais pour l'instant, en temps horizon, ces risques, en tout cas, d'inflation induite par les prix pétroliers demeurent. Et en parlant d'inflation, on devrait d'ailleurs avoir des chiffres importants cet après-midi aux États-Unis, puisqu'on s'attend à la publication du PCE.
Les données d'inflation du mois de mai. Dans ce contexte, on a un baril de pétrole qui est à 70 $ ou presque. Est-ce que ça vous donne envie de mettre un petit peu plus d'Europe en portefeuille, dans le sens où l'Europe a été grandement pénalisée depuis le début de ce conflit par rapport à Wall Street?
Alors pénalisée peut-être, ou en tout cas la moins profiter du rebond. Néanmoins, lorsque je regarde la tendance en termes de d'évolution de valorisation des marchés, la valorisation de Wall Street a cette année baissé plus franchement que la valorisation du marché européen. Je m'explique, Wall Street a peut-être de meilleures performances que l'Europe, mais a vu ses bénéfices augmenter encore plus. Aujourd'hui, en tant qu'investisseur, moi c'est vrai que je vais regarder des valorisations, mais enfin je vais encore plus regarder les perspectives de croissance. Or aujourd'hui, malheureusement, à quelques rares exceptions, et en Europe je noterai en tout cas certainement les valeurs financières ou le secteur de la pharma, mais je préfère objectivement toujours Wall Street à l'Europe pour l'instant, ou en tout cas, quitte à sortir d'Europe, je préfère largement les pays émergents à l'Europe pour l'instant. Les pays émergents ont l'avantage d'offrir des valorisations encore plus attractives que l'Europe et justement d'offrir une exposition à cette thématique technologique semi-conducteur qu'on vient d'évoquer ce matin.
Les segments des semi-conducteurs, toujours en portefeuille. Quels sont les autres secteurs aujourd'hui qui vous intéressent ou que vous surpondérez, Vincent Juvins?
Ils sont en rang 3, donc la technologie, évidemment, largement le commenter. Nous aimons bien les valeurs financières de part et d'autre de l'Atlantique. On a eu d'ailleurs à cet égard les résultats de stress test de la Fed qui ont été publiés cette nuit, qui montrent que le secteur financier américain est tout à fait solide, à même d'ailleurs de faire face à un choc majeur. Les stress tests de la nuit portaient notamment sur un write-down d'à peu près 700 milliards. Finalement, 700 milliards, c'est pas loin aussi du montant qui fait parfois peur, qui est le niveau d'encours dans les marchés de dette privée, puisqu'on parle de 1,2 trilliard. Donc Wall Street est capable d'encaisser, a priori, ce type de choc. Et on sait que de part et d'autre de l'Atlantique, on entend diluer, en tout cas, les contraintes liées aux réglementations de Bâle III pour permettre aux banques de libérer une partie de leur capital en opérations de marché, en opérations de prêt à l'économie. Et ça, évidemment, c'est quelque chose qui pourrait être bénéfique pour ce secteur. J'ajouterais aussi que le fait que les taux remontent en Europe, ne baissent pas aux États-Unis, est plutôt favorable. Même sur la courbe des taux, les banques ont une rentabilité relativement importante. La rémunération de l'épargne n'est pas calquée intégralement sur la rémunération des dépôts des bancaires auprès de la BCE. Donc là, il y a certainement d'intérêt. Et puis, le secteur pharma. Alors, c'est un peu, évidemment, un secteur avec lequel on a plus difficile depuis le début de l'année en portefeuille. Soyons transparents à cet égard. Néanmoins, il faut être conscient qu'il faut de la diversification dans un portefeuille. Être uniquement tributaire de ce secteur technologique serait un petit peu dangereux en termes de diversification. Donc, la pharma vient compléter ce triptyque, en tout cas en termes de choix sectoriels en ce qui nous concerne.
Merci beaucoup Vincent Juvins de nous avoir partagé ce matin vos convictions depuis ING où vous êtes responsable de la stratégie d'investissement.